Écrit par Gustave Lenôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, chapitre 4, Bataille de Dames. La mort de Louis XVI eut pour premier effet de paralyser pour un temps la Révolution. C'est un fait aujourd'hui acquis, émanant de relations d'une véracité indiscutable, que l'exécution du roi causa dans le peuple de Paris une stupeur profonde. Cette sombre journée du 21 janvier fut lugubre. Ces lendemains ne furent pas plus gais. La ville eut de la peine à reprendre sa physionomie insouciante. On eût dit que cet événement, attendu, escompté depuis un mois, souhaité par les uns, redouté des autres, avait glacé tous les esprits. Il y avait 2 ans que la lutte était engagée entre les deux camps. Les révolutionnaires, attaquant le roi sans trêve, s'acharnant à demander sa déchéance et sa mise en jugement, les royalistes, le défendant au contraire, avec un zèle souvent maladroit, illusoire, mais non sans courage. Dès que fut tombée la tête royale, enjeu de cette gigantesque partie, une immense lassitude s'empara des vainqueurs et des vaincus. Ceux-ci, découragés, sans but, croyant peut-être la révolution terminée par ce coup d'audace, semblaient abandonner la lutte. Ceux-là, effrayés de leur triomphe, comprenant qu'il serait lourd à porter, regrettaient presque d'avoir immolé celui qui leur servait de cible depuis si longtemps. Les deux parties attendaient, s'observant. Il y eut donc, non point une détente, mais une accalmie plus apparente que réelle. Les passions politiques paraissaient éteintes. Elles couvaient sous la cendre. L'échafaud chômait. Mais on profitait de cette relâche pour faire des modifications à l'instrument des supplices. Lentement, la terreur s'organisait. Rougeville avait disparu. Après avoir habité jusqu'au 10 août 1792 l'hôtel garni des Tuileries, rue Saint-Honoré, il n'y était point rentré après la prise du château par le peuple. Il y avait oublié, ou mieux, laissé en gage, une femme avec laquelle il vivait depuis plusieurs mois. Cela rassurait le citoyen Rivette, principal locataire de l'hôtel et créancier de Rougeville. Mais un jour, c'était en octobre, Rivette s'aperçut, avec angoisse, que les objets abandonnés par son locataire et qui étaient le nantissement de sa créance, disparaissaient journellement. Il surveilla la femme, s'aperçut qu'elle sortait tous les matins en emportant des objets soigneusement empaquetés. Plein d'inquiétude, il ne fit qu'un bond jusqu'au poste des feuillants et requit l'intervention de la force armée pour arrêter le pillage dont il était victime. 1 heure après, 4 hommes conduisaient devant le citoyen Charbonnier, commissaire de police de la section des Tuileries, l'hôtelier Rivette et sa peu scrupuleuse locataire. Elle se nommait Marie-Jeanne Louise Lemaignan et appartenait à une famille d'Avranches, honorable et aisée. Mariée jeune au sieur Lacouture, conseiller au présidial de Coutances, elle était venue à Paris en 1789, accompagnant son mari qui, atteint d'une maladie grave, voulait consulter un célèbre médecin de la faculté. Les deux époux avaient loué un appartement rue de Bourbon-Villeneuve. Mais Lacouture était mort presque en arrivant, et sa veuve, ayant pris goût à la capitale, s'y était fixée après un court voyage à Coutances où elle était allée régler les affaires de la succession. Seule à Paris, elle s'était logée chez les dames de Saint-Gervais, au Marais. Elle y resta jusqu'à la fin de 1790, époque où elle fit la rencontre de Rougeville. Elle avait 30 ans alors, et il semble que dès lors, elle l'aima. Il était homme d'ailleurs, à faire impression sur cette provinciale à qui pesait le veuvage et l'isolement. Son titre de chevalier, il ne se donnait pas encore pour marquis, les hautes relations dont il faisait parade, sa vie aventureuse, la fortune de son père, tous ces avantages joints à un physique assez avenant, étaient bien faits pour flatter l'amour-propre et exciter le désir de la veuve d'un modeste magistrat de petite ville. Et puis, comment résister à ce jeune gentilhomme, bien posé à la cour, admis chez le roi et fréquentant dans l'intimité de la reine? Aussi, Louise la Couture ne résista-t-elle pas longtemps? Au mois d'avril 1792, nous la trouvons installée chez son chevalier à l'hôtel meublé des Tuileries. Tout alla bien pendant 4 mois. La dame n'était pas sans ressources. Rougeville, qui tout en conspirant menait une vie de plaisir, avait de continuels besoins d'argent. L'aubaine lui parut venue à point. Il éblouit d'abord sa maîtresse de la description de son château de Saint-Laurent, fit sonner bien haut la situation de sa famille, parla de son avenir politique, bref, manœuvra si adroitement que la veuve La Couture lui abandonna ses économies en échange d'une rente viagère de 800 francs qu'il s'engageait à lui payer chaque trimestre. Survint le 10 août. Nous aimons à penser que l'intérêt ne le guida en rien dans cette circonstance. Ce qui est certain, c'est que son amour pour sa compagne de hasard n'était pas bien violent, puisqu'après la bataille, présumant qu'on le croirait mort en défendant son roi, il profita de l'occasion pour déserter le foyer quasi-conjugal de l'hôtel des Tuileries et disparut. Louise La Couture, s'estimant veuve pour la seconde fois, se désolait. Plusieurs jours se passèrent sans qu'elle reçût des nouvelles du chevalier. Dans la crainte de le compromettre, s'il existait encore, caché dans quelque retraite sûre, elle s'abstint de toute recherche. Mais, après avoir vécu du peu d'argent qui lui restait, elle se trouva sans ressources. Réduite à l'extrémité, elle déménageait clandestinement les vêtements ou autres objets mobiliers que son amant avait abandonnés, et c'est ainsi, nous l'avons vu, qu'elle fut amenée à comparaître devant le commissaire de police de la section. La pauvre femme s'excusa comme elle put. Elle reconnut avoir effectivement soustrait les effets de Rougeville. Elle avait, il est vrai, commis cette indélicatesse, pressée par la nécessité de se substanter et de subvenir à ses besoins urgents. Mais ce détournement ne pouvait en rien nuire au citoyen Rivette, attendu qu'une dame d'Arin avait depuis longtemps porté saisie à raie sur tous les objets appartenant à Rougeville. Ce qu'entendant, Rivette prit le parti le plus sage. Il retira sa plainte et mit à la porte sa débitrice insolvable. Elle se réfugia chez une fille, Agnès, ci-devant lingère de la maison de M. de Montpensier, demeurant cour des Fontaines, puis chez un sieur Boquet, 6 rue Faubourg-Poissonnière, et tout de suite, elle se lança à la recherche de son infidèle. Comment parvint-elle à le retrouver? Je l'ignore. L'amour la guida sans doute car, sans l'intervention de ce dieu qui passe pour malin, elle n'y eut jamais réussi. Rougeville étant, on le verra plus tard, doué de la faculté de disparaître, comme s'il eût possédé l'anneau magique de la légende. Pour leur malheur à tous deux, ils se rencontrèrent. Louise La Couture apprit que l'amant qu'elle pleurait habitait en compagnie d'une jeune et jolie femme un hôtel meublé de la rue des Quatre Fils, au Marais. Cela se passait dans les premiers jours de mars 1793, au moment même où M. de Jargeil, aidé de Toulon et de Lepitre, cherchait à sauver la reine enfermée au temple avec ses enfants et sa belle-sœur. Nous avons la certitude que Rougeville, s'il n'était pas du complot, était affilié du moins à quelque autre entreprise du même genre. Il paraît établi en effet qu'il eut à cette époque quelques rapports avec Jean-Benjamin de Laborde, ancien valet de chambre de Louis XV, devenu le banquier de Marie-Antoinette, et qui paraît avoir fourni des fonds à quelques-uns des fidèles qui s'étaient voués au salut des prisonniers du Temple. En outre, la façon miraculeuse, ce sont ses propres expressions, dont Rougeville se tira du mauvais pas où il s'était fourvoyé, montre bien que son concours était alors utile à quelqu'un ou à quelque chose. Il est certain d'ailleurs que, vers le même temps, les émigrés de Londres entretenaient à Paris un grand nombre d'affidés, et il semble probable que Rougeville, par besoin d'argent, par amour des aventures ou par sincère dévouement à la cause royale, avait su se faire admettre parmi eux. Tout cela, nous l'avouons, est assez obscur et ne repose que sur une série d'inductions et d'hypothèses. Mais on ne saurait s'étonner que de semblables complots aient été forcément entourés d'un mystère qu'aucune pièce authentique n'est venue depuis lors éclaircir. On comprend combien Rougeville fut désagréablement surpris en se voyant découvert. Louise la Couture venait se jeter à la traverse de ses projets avec toute l'énergie d'une femme amoureuse. Il essaya d'abord de la calmer, prétextant un malentendu. Il lui jura que, le soir du 10 août, après avoir vaillamment concouru à la défense du château, il se disposait à regagner l'hôtel des Tuileries lorsque, dans la rue Saint-Honoré, il rencontra un homme qui lui donna le conseil de ne point rentrer Saint-Hugues. Un des plus fougueux orateurs du club, s'étant établi en permanence à l'hôtel des Tuileries, guettant son retour pour le faire arrêter. Puis, par une tactique devenue classique, en pareil cas, il simula à son tour la jalousie et accabla de reproches son ancienne maîtresse. Il feignit de croire que Saint-Hugues l'avait supplanté, lui, Rougeville, dans le cœur de Louise la Couture, que tous deux, pour se débarrasser d'un témoin gênant, l'avaient dénoncé comme royaliste militant. C'était eux qui l'avaient fait enfermer à l'abbaye, d'où il était parvenu à sortir la veille même des massacres de septembre. « Maintenant, ajouta-t-il d'un ton solennel, je vous ai pardonné. Mon cœur brisé ne désire plus que l'oubli. Adieu, ne cherchez jamais à me revoir. » La femme la Couture, qu'un tel aplomb affolait, prenait le ciel à témoin que ses sentiments n'avaient point changé, que ce récit n'était que mensonge et calomnie. Lui restait inflexible dans sa dignité d'amoureux offensé. Il s'esquiva enfin, croyant être délivré d'elle à tout jamais. Comme il la connaissait mal, elle le suivit, s'informa à l'hôtel de la rue des Quatre Fils du nom de la personne avec laquelle il vivait. Elle apprit ainsi que la nouvelle maîtresse de son infidèle était une très jeune femme nommée Sophie du Tilleul. Sa rage alors ne connut plus de bornes. Un jour après s'être assurée que Rougeville était absent, elle sonna à la porte de Sophie. On devine la scène qui s'engagea entre les deux femmes. Louise la Couture jugea d'un coup d'œil que ses charmes ne pouvaient rivaliser avec ceux de sa remplaçante, et sa colère s'accrut de cette pénible constatation. Elle traita sa rivale de voleuse, de fille perdue, de bien d'autres noms encore. Elle réclama l'argent qu'elle avait prêté à Rougeville, menaça de les faire arrêter, lui comme escroc et Sophie comme complice. Pleura, cria, s'évanouit, ameuta toute la maison. La femme du Tilleul, petite parisienne madrée, resta très calme, prenant la chose de haut, demandant qu'on la débarrassât de cette folle. La dispute se termina enfin. Louise promit de revenir et jura qu'on aura de ses nouvelles. Elle tint parole. Mais lorsque, quelques jours plus tard, elle se présenta rue des Quatre Fils, on lui apprit que le citoyen Rougeville et la citoyenne du Tilleul avaient quitté l'hôtel et étaient partis sans laisser d'adresse. Le coup fut rude. Louise la Couture, comprit qu'elle était jouée. Ayant soif de vengeance, elle fouilla tout Paris, alla frapper à la porte de tous les garnis, fréquenta le jardin des Tuileries, les abords de la Convention, le palais de justice, tous les lieux publics où elle espérait pouvoir rencontrer Rougeville. Elle ne recueillit aucun indice. Alors, folle de rage, elle prit le parti de le dénoncer à la municipalité comme ancien officier du roi, combattant du 10 août, certaine que la police parviendrait bien à découvrir sa trace. C'était une chose grave qu'une dénonciation en mai 1793. Nous l'avons dit, la terreur s'organisait, car il ne faut pas croire que dès les premiers jours qui suivirent le 21 janvier, le peuple de Paris fut mûr pour l'odieux régime qu'on s'apprêtait à lui faire subir. Une certaine préparation avait été nécessaire. On avait fait vibrer d'abord la corde patriotique, tous ceux qui ne se félicitaient pas hautement du nouvel ordre de choses étaient censés pactiser avec les ennemis de la nation. Et alors avaient été créées ces appellations de suppôt, de pit et cobourg qui devaient plus tard servir à envoyer tant d'innocents à l'échafaud. Il fallait ensuite entretenir les Parisiens, race si nerveuse, si impressionnable, mais si vite blasée aussi, dans un perpétuel état de fièvre et de suspicion. Puis, on avait fait table rase de tous ceux qui, républicains sincères, bons patriotes, acceptant les faits accomplis, gardaient une certaine modération d'opinion et désiraient l'établissement d'une démocratie honnête, intelligente et pacifique. Ces tièdes avaient été dans l'administration, dans les municipalités, dans les sections, remplacés par des énergumènes à bonnet rouge, des jacobins éprouvés, des purs, dont les scrupules ne devaient pas être gênants et dont l'ignorance était un sûr garant de bassesse et de servilité. Le peuple, lui, resta toujours le même. Confiant, léger, versatile, bon enfant et crédule. Mais les cadres furent composés de meneurs sans aveu, sans pudeur, sans conviction, qui se chargeaient de conduire la foule et de lui imposer la soumission nécessaire. Infime minorité qui, pendant 18 mois, fut la maîtresse de la France. On ne saurait s'expliquer autrement comment ce peuple, réputé si sensé, applaudit successivement les Girondins, les Hébertistes, les Dantonistes, pour se faire aussitôt une fête de leur chute. Comment il déifia Marat et traîna ensuite son buste à l'égout. Comment il acclama Robespierre et dansa le lendemain autour de son échafaud. Il ne se déjugeait pas. Il obéissait aveuglément. Ceci soit dit à son honneur, car si l'histoire de la terreur est riche en documents malheureusement irréfutables où le grotesque le dispute à l'odieux, c'est que le mot d'ordre était donné par des chefs de file imbéciles ou cruels. Et tels étaient ces municipaux, ces clubistes, ces espions, ces commissaires nationaux, seuls promoteurs des saturnales et des massacres qui ont déshonoré la Révolution. Donc, afin de remplir les prisons et de préparer la loi des suspects, on avait ordonné dénoncer, dénoncer. Et tout le peuple dénonçait. Il est inouï de voir ce que Paris contenait de gens qui consentirent à se faire délateur. Les cartons de nos archives sont remplis de rapports qui seraient comiques si l'on ne savait quelles en furent les conséquences. C'est un commissaire de police qui arrête en un seul jour 21 femmes parce qu'elles n'ont point de cocarde. Un autre fait détruire deux pierres portant des signes de royauté. Voici un propriétaire qui s'inquiète et qui vient confier aux autorités qu'il ne peut vérifier si les plaques de cheminée d'un de ses locataires, qui est absent, portent des signes de féodalité. C'est encore le compte rendu d'un transport chez un autre particulier, absent, pour faire retourner les plaques des cheminées. Puis, ce sont trois jeunes gens qui paraissent suspects parce qu'ils ne sortent jamais et ne se mettent pas à la fenêtre. Plus tard, on dénoncera un chien dressé par son maître à aboyer contre les patriotes et à sauter pour les aristocrates. Et la pauvre bête sera mise à mort par ordre d'un commissaire de police. L'administration se montrait surtout friande de délations d'un genre moins platonique. Elle ne pouvait douter de l'existence d'une vaste conspiration royaliste tendant à la dispersion de la Convention, à la délivrance de la famille royale et à la proclamation du jeune Louis XVII. Mais elle n'en pouvait saisir le fil. Aussi, tout rapport de nature à éclairer la police sur les agissements des conspirateurs était-il le bienvenu? Dieu sait si ces rapports étaient nombreux. L'un dénonçait un rassemblement mystérieux tenu dans les fourrés du bois de Boulogne. L'autre révélait l'existence d'un atelier clandestin où l'on fabriquait des uniformes avec des boutons portant les armes royales. Celui-ci avait vu déposer une malle très pesante dans une maison de campagne appartenant à un cousin de Dumouriez. Celui-là avait vent d'inconciliabules secrets dans la rue Traversière. On faisait une descente dans une maison où l'on croyait que les émigrés se réunissaient. On fouillait le domicile du nommé Burcurieux, ci-devant abbé, où l'on disait que beaucoup de personnes, connues comme aristocrates, se réunissaient sous prétexte de jeu. Tout cela fournissait bien quelques pensionnaires pour les prisons, pâture à venir pour la guillotine, mais ne mettait en cause que des individualités. Ce qu'il eût fallu saisir, c'était l'organisation même du complot. On n'y parvenait pas, et le danger semblait d'autant plus menaçant qu'il n'était qu'entrevu. On comprend donc que le rapport de la veuve Lacouture a été bien reçu. Ce Rougeville, ancien familier de la reine, ex-chevalier du poignard, décoré de la croix de Saint-Louis, devait être à n'en point douter un des chefs de la conspiration. En outre, la dénonciation venait à un bon moment. On était à la veille du 31 mai, la Révolution entrait en pleine fièvre, et la Commune de Paris, désormais souveraine maîtresse, allait avoir besoin, pour faire excuser ses excès, d'en rejeter la responsabilité sur les aristocrates. Ce qu'avait prévu Louise Lacouture arriva. Dès le 3 juin, Rougeville était découvert. Des espions de police signalaient sa présence hors de Paris, à Vaugirard, où il se tenait caché depuis plusieurs jours, dans la maison de Sophie Dutilleul. Le lendemain, un peloton de municipaux se présentait pour l'arrêter. La maison était vaste, flanquée d'un grand jardin et située presque en face de l'église du village. Sophie Dutilleul reçut les municipaux, feignit d'ignorer le but de leur visite, les laissa fouiller tout l'immeuble. Ils allaient se retirer sans avoir trouvé celui qu'ils cherchaient quand le hasard le fit découvrir, tapis au fond d'un placard, circonstance aggravante. On l'en tira, et dès le jour même, on l'expédia ainsi que sa maîtresse, sous bonne escorte, au poste de police de la mairie, établi alors dans les bâtiments du palais de justice, qui avait été, avant 1790, l'hôtel du premier président. On y convoqua aussitôt la veuve Lacouture, et l'on procéda sans retard aux interrogatoires. Rougeville, questionné le premier, répondit avec assurance. Il déclina ses noms, ses titres, et donna son adresse, rue des Quatre Fils, au numéro 11. Il fit l'homme que la politique n'intéresse pas, et dissimula sans vergogne ses sentiments royalistes, affirmant qu'il n'avait point servi depuis le commencement de la Révolution, qu'il avait rejeté les propositions qu'on lui avait faites d'emblée dans la garde du roi. Comme on avait trouvé sur lui le manuscrit d'un écrit aristocratique, il jura qu'il ignorait comment cette pièce se trouvait dans son portefeuille, mais qu'il soupçonnait fortement la citoyenne La Couture d'y avoir glissé pour le compromettre. Ce pamphlet dont il la croyait l'auteur. La question la plus embarrassante était celle concernant la résidence. Le serment et la carte de civisme, mais il ne se troubla point, citant des dates et des noms. À la fin de 1791, dit-il, j'ai produit des certificats de résidence qui m'avaient été délivrés par la section du Louvre, dans les bureaux du citoyen Laroche, ci-devant, trésorier de Louis Stanislas Xavier Capet, rue Bergère. Depuis lors, je n'ai pas cru être obligé de m'en procurer de nouveau. J'ai constamment demeuré à Paris, rue du Vieux Louvre, numéro 13, puis à l'Hôtel d'Angleterre, rue Saint-Honoré, de là rue du Bac, seconde porte cochère à gauche en entrant par le quai Voltaire, maison de la citoyenne Lagrange, ensuite au Grand Hôtel des Tuileries, rue Saint-Honoré, jusqu'au 16 août, et depuis dans ma demeure actuelle. Les citoyens sous laisse et Froidure, administrateur de police, qui dirigeait l'enquête, lui demandèrent ensuite où il était le 10 août. Ce à quoi Rougeville, payant d'audace, répartit que ce jour-là, il n'était pas sorti de chez lui, ainsi que peut l'attester le citoyen Rivette, maître du Grand Hôtel des Tuileries, qu'au surplus, il était bon patriote, qu'au mois de septembre dernier, comme il était malade, les commissaires de la section des enfants rouges s'étaient présentés chez lui pour qu'il payât sa contribution patriotique et qu'il avait profité de cette occasion pour prêter, entre leurs mains et dans son lit, le serment de maintenir la liberté et l'égalité, ce qu'il fit sans qu'en fût dressé acte. Quant à la carte de civisme, ayant été alité jusqu'au mois de mars dernier, il n'avait pu s'en procurer. Et depuis cette époque, il avait toujours remis de jour en jour pour s'en procurer une. Toutes les réponses de Rougeville aux questions insidieuses des administrateurs sont celles d'un homme qui n'a rien de caché, dont la conscience est pure. Sa vie, à l'en croire, est celle d'un sage dans une maison de verre. Il n'acquitte pas ses impositions, c'est vrai. Mais c'est qu'il n'en a point à payer, ne possédant aucun revenu financier ni mobilier. Il vit d'une pension de 4000 francs que lui fait son père, honorable vieillard habitant la province où il vit de son bien. On l'a trouvé dans une maison de banlieue, mais c'est parce qu'ayant été rendre visite à la citoyenne du Tilleul, veuve qu'il connaît depuis 3 ans, il a trouvé les barrières fermées et que n'ayant pu rentrer dans Paris, il a demandé à son ami l'hospitalité pour une nuit. On s'étonne qu'il se soit caché à l'arrivée des municipaux. C'est bien simple. Il est en butte depuis 3 ans aux poursuites de la femme La Couture qui le persécute pour vivre avec lui, qu'il n'a cessé d'accabler de bienfaits et qui habite encore actuellement dans un appartement garni de ses meubles, à lui. Lorsque les municipaux se présentèrent, entendant du bruit à la porte de la maison, il crut que cette femme venait le relancer jusqu'à Vaugirard, et alors il s'est caché pour éviter une scène désagréable. Tout cela était limpide et ne pouvait éveiller l'ombre d'un soupçon. Il le jugeait, du moins. Mais les administrateurs en jugèrent autrement, et ils opinèrent que, vu l'interrogatoire ci-dessus, attendu que le citoyen Rougeville n'a pu justifier de sa résidence, de sa prestation de serment et de sa carte de citoyen, ce qui le rend suspect, il sera conduit au mât de l'honnête pour y être détenu jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné. La veuve La Couture, mise ensuite sur la sellette, s'étendit longuement sur l'escroquerie dont elle se prétendait victime. Elle déplora la perte de ses économies, détailla minutieusement les 8000 francs qu'elle avait confiés à Rougeville, l'accusa de lui avoir pris ses bijoux, ses boutons d'or, une montre et sa chaîne pour les donner à cette femme avec laquelle il vivait. Même elle déposa entre les mains des administrateurs une petite cuillère à café pour qu'il pût s'assurer que toute son argenterie, marquée ainsi que ses objets, le seul qu'il lui avait laissé, d'un C, d'un L et d'un D, se trouvait chez sa rivale. On la mit aussitôt en liberté. Quant à la femme du tilleul, elle confirma les dires de Rougeville et certifia que tous les objets de valeur se trouvant chez elle lui appartenaient en propre, ainsi qu'elle pouvait en justifier par la quittance de l'orfèvre et du tapissier. Elle fut relaxée le même jour. Rougeville restait donc seul sous les verrous. Et ici se place un de ces faits étranges, inexplicables, qui viennent si souvent traverser son aventureuse existence. Au bout de 8 jours, sans qu'on l'ait jugé, sans qu'il ait satisfait à aucune des formalités dont le défaut l'avait fait incarcérer, il fut mis en liberté. Pourquoi ? Comment ? Grâce à quelle influence ? Nous ne le savons pas. Lui-même a dit plus tard être sorti des Madelonnettes très miraculeusement et par des particularités étonnantes. Mais il ne sait pas expliquer davantage et le laconisme des pièces officielles ne peut servir à nous guider. Le prisonnier était parvenu à se procurer, à prix d'argent sans doute, un certificat émanant du citoyen Beugne, principal locataire d'un immeuble de la rue Fromenteau, qui certifiait que Rougeville avait habité sa maison depuis le 27 février 1791 jusqu'à la fin de la même année, et qu'il avait exactement payé ses loyers et qu'il s'y était conduit de manière à se concilier l'estime et l'amitié des autres locataires. Ceci établit bien nettement que les administrateurs de police avaient reçu l'ordre d'être complaisants. Ce certificat était en effet faux, insuffisant d'ailleurs, et en contradiction flagrante avec les premières allégations du prévenu. On s'en contenta néanmoins. Rougeville fut mis en liberté provisoire sous la caution de 2 inconnus, un boucher de la rue du Sentier et un marchand d'étoffes de la rue Simon-le-Franc, à la charge de justifier, dans un délai d'un mois, de ses résidences successives et de présenter, sous 3 jours, sa carte de santé. Pure formule destinée à masquer, sur le registre des interrogatoires, ce que la mesure avait d'irrégulier. Il n'en faut pas douter. Rougeville possédait le tout-puissant talisman qui ouvre la porte des cachots et impose silence aux fonctionnaires. En quoi consistait ce talisman ? Il s'en servit probablement pour se procurer les attestations de civisme nécessaires, car 2 jours plus tard, il se présentait volontairement devant les mêmes administrateurs de police et produisait une carte de sûreté enregistrée sous le numéro 2374 folio 50 et un certificat de la section de l'homme armé le déclarant excellent patriote. Se sentant désormais inattaquable, il retourna vivre avec Sophie du Tilleul dans la maison de Vaugirard où on l'avait arrêté. Là, sans doute, il continua à s'occuper du grand projet dont il devait bientôt tenter l'exécution, sûr qu'il ne serait plus dérangé dans ses préparatifs. La veuve Lacouture n'abandonnait point cependant la partie. Toujours amoureuse, toujours jalouse, toujours désireuse de recouvrer son argent, ne comprenant point, d'ailleurs, comment sa dénonciation avait pu si complètement avorter, elle poursuivait son but avec entêtement. D'abord, elle écrivit à son infidèle, en mettant comme adresse sur l'enveloppe « À Monsieur de Rougeville, si devant la maison du roi, chevalier du poignard, chargé par Monsieur de faire la contre-révolution en France, tenant un groupe chez lui, à Vaugirard, chez la citoyenne du Tilleul. » Elle jetait ses lettres dans les boîtes de la petite poste, espérant ainsi réveiller les soupçons de la police. Mais la police avait sur les yeux un bandeau. Elle ne s'émut pas. Alors, Louise Lacouture vint en personne à Meuter le village. Voulant fixer l'attention des autorités de Vaugirard, elle chercha à soulever contre l'aristocrate un mouvement populaire. À l'en croire, c'était chez Sophie du Tilleul que se tenaient tous les complots contre-révolutionnaires. Elle fit tant et si bien que les citoyens composant la municipalité se décidèrent à agir. Mais non point dans le sens qu'elle avait espéré. Rougeville ne fut pas inquiété. Ce fut sa délatrice qu'on chassa de la commune avec menace de la faire incarcérer si elle osait s'y représenter. Le chevalier du poignard semblait être devenu inviolable. Et c'est alors qu'il entreprit de mener à bonne fin l'étonnante intrigue à laquelle il doit toute sa renommée. Jusqu'à présent, il s'est montré sous un jour assez défavorable. Viveur, indélicat, hâbleur, sans aucun esprit de conduite. Il resterait un personnage peu intéressant si les événements que nous avons à conter n'étaient là pour lui faire une sorte d'auréole. Quoi qu'on pense de son caractère, on ne pourra s'empêcher de reconnaître qu'avec un courage inouï, encore qu'un peu bruyant, il s'est jeté dans une aventure capable de faire reculer les plus audacieux. Et soit qu'il fût bien dirigé ou bien secondé, soit que l'extrême danger le rendît circonspect, il montra dans les circonstances que nous allons dire tant de sang-froid et d'habileté qu'on aura peine à reconnaître dans le héros de l'affaire de l'œillet, le conspirateur léger et brouillon que nous avons jusqu'ici tenté de faire connaître.